Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
À mes côtés pour vous informer, c'est Agnès Bonfillon, le journal de 8h sur RTL. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, l'effroi après l'assassinat d'un professeur d'histoire-géographie hier après-midi.
L'homme de 47 ans a été décapité en pleine rue, tout près du collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Il s'agit d'un attentat islamiste. L'assaillant a été abattu à quelques centaines de mètres par les forces de l'ordre. Côté de Lombucard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devant l'établissement duquel sortait le professeur hier lorsqu'il a été pris pour cible.
Effectivement, peu après 17h, le professeur d'histoire géo quitte le collège à pied. Il parcourt quelques centaines de mètres avant d'être attaqué par ce jeune homme de 18 ans, né à Moscou et d'origine tchétchène. Selon les papiers retrouvés sur lui, la scène est d'une extrême violence. L'assaillant décapite le professeur avant de prendre la fuite en direction d'Erani, la commune voisine située à quelques mètres de là. Cette habitante raconte au micro de Julien Fautra.
On a une petite voisine là qui est passée aussi et qui a vu ce qui s'était passé, qui a vu le corps par terre, qui est complètement traumatisé aussi, hein, qui a croisé justement le tueur avec le couteau, quoi. Et il lui a dit de changer de trottoir rapidement, sinon ce serait son jour aussi.
Quelques minutes à peine après l'attaque, l'homme est appréhendé par une équipe de la BAC dans une allée résidentielle. L'assaillant refuse de lâcher son arme, les policiers tirent, comme on peut l'entendre sur cette vidéo filmée par un voisin. L'auteur de l'attaque meurt quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. Très vite, le parquet antiterroriste se saisit de l'affaire car le caractère terroriste de cette attaque ne semble faire aucun doute. Ce matin, les dispositifs policiers, le périmètre de sécurité sont levés. Tout près du collège, quelques traces de sang sur le sol témoignent encore de la violence de cet attentat.
Alors Gauthier, le professeur d'histoire géo avait abordé la liberté d'expression avec ses élèves il y a quelques jours en montrant des caricatures du prophète Mahomet. Ça pourrait être l'élément déclencheur, ce qui a fait qu'il a été pris pour cible.
Effectivement, le professeur a montré des caricatures de Mahomet nu à sa classe de 4e lors d'un cours sur la liberté d'expression il y a quelques jours, proposant, selon plusieurs témoignages, aux élèves musulmans de sortir de la salle afin de ne pas être choqués. De nombreux parents d'élèves se sont alors plaints auprès de la direction de l'établissement. Un papa a même posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour critiquer vivement le professeur qui n'avait, selon lui, pas à blasphémer. Tout cela, elle serait allée encore plus loin sur les réseaux. L'enseignant de 47 ans aurait reçu des menaces de mort. Les autorités locales étaient au courant de cette situation. Malgré cela, le père de famille ne bénéficiait, semble-t-il, pas d'une protection particulière.
Merci beaucoup Gauthier de Lombucard en direct des Yvelines pour RTL. Vous le disiez Gauthier, le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. 4 personnes ont été placées en garde à vue dès hier, parmi elles un mineur. Toutes font partie de l'entourage de l'assaillant.
Et Emmanuel Macron, Agnès, s'est rendu sur place dans la soirée.
Oui, le président de la République a rencontré certains collègues de la victime. Il s'est ensuite exprimé devant les journalistes en sortant du collège. Emmanuel Macron a bien sûr fait part de son émotion et s'est montré très ferme.
Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Ce soir, je veux, avant toute chose, avoir une pensée pour l'ensemble de ses proches, sa famille, avoir une pensée pour ses collègues. Ici au collège. Et plus largement, je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les Lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle.
Emmanuel Macron, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais aussi de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale doit recevoir dans moins d'une heure maintenant les représentants des syndicats d'enseignants, mais aussi de parents d'élèves. Toute la classe politique, elle, fait part de son émotion. Jacques Seret, c'est sans exception aucune.
Oui, l'ensemble des responsables politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche ont réagi. Barbarie insoutenable pour Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui commente d'ailleurs cette phrase « Ils ne passeront pas » prononcée par Emmanuel Macron. Marine Le Pen répond au chef de l'État « Ils sont déjà là, jusque dans nos écoles ». Pour Christian Jacob, le patron des Républicains, les grands discours doivent céder la place aux grandes décisions. Hier soir, à l'Assemblée nationale, tous les députés présents dans l'hémicycle se sont levés pour saluer la mémoire de cet enseignant. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, y voit un attentat contre la liberté d'expression et les valeurs de la République. Pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls, un pas supplémentaire a été franchi par le fondamentalisme islamiste. Le secrétaire général du Parti socialiste, Olivier Faure, insiste « Notre intransigeance doit être totale. » Le PS qui souhaite l'organisation d'une manifestation d'unité de la nation. Pour François Hollande, plus que jamais, nous devons être unis face à la barbarie et à l'obscurantisme. Enfin, pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, l'assassin salit sa religion et, je cite, « nous inflige à tous l'enfer de devoir vivre avec les meurtriers de son espèce ». Alexis Corbière, député de la France insoumise et professeur d'histoire, propose lui une journée de deuil national.
Merci beaucoup. Jacques Seret, en plein procès des attentats contre Charlie Hebdo. Trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de l'hebdomadaire, la rédaction du journal satirique exprime également son sentiment d'horreur et de révolte.
Et on a pu mesurer depuis 7h ce matin l'émotion, à la fois chez les parents d'élèves avec notre invité à 7h15, chez les enseignants avec notre invité il y a un quart d'heure maintenant. On ira plus loin, tout à l'heure à 9h10, nous recevrons l'avocat Thibaut de Montbrial, directeur du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, et on lui posera des questions toutes simples comme pourquoi et comment on a pu en arriver là aujourd'hui à ce qu'un professeur soit décapité dans notre pays en octobre 2020. 8h06, restez là dans un instant, la suite du journal et le premier jour de couvre-feu pour de nombreuses métropoles. A tout de suite.
RTL Matin. Stéphane Carpentier.
8h08 en ce samedi matin, la suite du journal avec Agnès Bonfillon. Depuis minuit, Agnès, plusieurs métropoles sont passées à l'heure du couvre-feu.
Oui, à partir de ce soir, 21h, interdiction de sortir jusqu'à 6h du matin, à moins d'avoir un motif valable comme travailler, se rendre auprès d'un proche dépendant ou encore sortir son chien. Mais dans ce cas, il faut quand même remplir une attestation qui est disponible sur le site du gouvernement. Attention, la fête n'est pas un motif valable. Alors forcément, à Toulouse comme ailleurs, à partir de ce soir, il va falloir organiser différemment ces soirées. Certains anticipent ou pas, Patrick Tégéro.
Ce sont trois amis à peine majeurs. Ils sont étudiants, mais aussi rugbymen et bien sûr fêtards, la trilogie toulousaine idéale. Mais avec le couvre-feu, Thomas s'inquiète.
Ben, le soir, on va rien faire. Peut-être des soirées privées, oui. Domicile à domicile. Oui.
Mais là, il ne faudra pas quitter le domicile avant le lendemain matin.
Une nuit blanche, hein. Jusqu'à 6h du matin.
La solution est donc vite trouvée, César est catégorique.
On est tous jeunes, on a encore besoin de sortir. Alors moi, pour ma part, je pense que je vais faire des soirées soit chez moi ou même chez des copains, quitte à inviter les copains ou me faire inviter pour dormir. Et ça va être assez compliqué, mais à mon avis, je vais réussir.
Clément, lui, se veut un petit peu plus mature.
Écoutez, moi, je vais être un peu plus sage que mon copain. Je pense que là, en tant qu'étudiant, on va être divisé entre choisir si tu vas sortir avec tes potes ou faire une nuit blanche ou attendre 6 heures ou être un peu plus sage et ne pas sortir quoi. Je pense qu'il faut respecter quand même ce que dit le gouvernement, mais ça va être très difficile en tant que jeune.
Il va donc falloir faire des efforts pour être un petit peu sérieux, même quand on a 18 ans.
Le reportage de Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. Toulouse où finalement les bars vont rester ouverts dans la journée. Oui, je sais, c'est pas simple de s'y retrouver. L'arrêté de la préfecture qui ordonnait une fermeture totale a été suspendu par la justice.
Le rugby, une question, le jour de gloire est-il enfin arrivé pour le Racing 92 ?
Un jour de finale de Coupe d'Europe, les Franciliens vont-ils enfin conjurer le sort après deux défaites en 2016 et 2018 ? Ils affrontent cet après-midi à Bristol les Britanniques d'Exeter, équipe redoutable cette année. Au-delà des enjeux sportifs, c'est dans un stade vide de supporters que la rencontre aura lieu. L'enjeu reste néanmoins énorme, comme le rappelle notre consultant Christophe Dominici.
Peut-être ça marquera l'histoire du Racing d'être champion d'Europe en pleine période de Covid. On revoit du sport, on revoit des matchs, mais il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas d'envie. Donc effectivement, il faut qu'ils retrouvent les mots, le sens, l'histoire que les joueurs ont envie de faire les uns pour les autres. Et c'est ça qui va déterminer l'équipe victorieuse de cette finale. Parce que c'est vrai, jouer dans un stade vide, sur une pression énorme, sur une finale de Coupe d'Europe, ça doit être pas facile pour les acteurs. En tout cas, les supporters du Racing doivent être très enthousiaste, parce que c'est pas facile d'arriver en finale de Coupe d'Europe. On a vu leur parcours. Hein. Cette équipe du Racing, elle est construite depuis un certain temps pour être régulière. Le club de M. Lorenzetti, ce qu'il a voulu faire, c'est une stabilité des fondations. Centre d'entraînement ultra perfectionné, une aréna de très haut niveau. Ça sera leur troisième finale européenne. Ils n'ont jamais eu le privilège de la gagner. Ils ont toujours été vice. On s'aperçoit que le second, on n'en parle jamais. Donc ils ont l'opportunité d'aller chercher un premier titre européen qui serait quand même, il me semble, quelque chose de merveilleux pour ce club.
Notre consultant Christophe Dominici, coup d'envoi de la finale à 17h45. En foot, 7e journée de Ligue 1 et le PSG qui prend provisoirement la tête du classement après une victoire 4-0 à Nîmes, dont un doublé de Mbappé. L'autre match de la soirée entre Dijon et Rennes s'est conclu sur un nul. Un partout. Et puis sachez qu'en Ligue 2, Clermont l'a emporté à Chambly, 3-0.
C'est bien noté, merci Agnès. Tiens, ça va vous plaire, on va garder le pied sur le ballon rond comme tous les samedis matin. Il vient prendre un pari sur l'actualité du football.